Bonjour, c'est Carla.
Bonjour, c'est Alison.
Nous vous présentons le journal d'une maman.
Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler alimentation et grossesse et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Marjorie Alarçon. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Marjorie, vous êtes diététicienne, vous êtes la maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. Donc vous avez travaillé dans différentes cliniques sur Marseille et puis sur Avignon. Vous avez également travaillé dans plusieurs domaines, la neurologie, l'orthopédie, la traumatologie, et vous avez été également enseignante SECPA, vous faisiez des accompagnements éducatifs de la petite enfance, et donc vous êtes maintenant depuis 2023 à votre compte. À votre compte, puisque vous avez ouvert votre cabinet en libéral de rééquilibrage alimentaire. Donc, vous faites de la prise en charge, des ateliers pour les femmes enceintes, les mamans allaitantes, les nourrissons. Et vous êtes également dans un centre de formation, de réinsertion professionnelle, où vous faites de l'éducation nutritionnelle. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup les mamans, parce qu'on nous le demande souvent. Alors, chaque année, on essaie de faire une petite émission sur cette alimentation pendant la grossesse. Alors vous allez nous le dire, on sait qu'une alimentation équilibrée associée à une bonne hygiène de vie participe donc au bon déroulement de cette grossesse et contribue bien entendu à un développement harmonieux du bébé. Alors la diversification alimentaire, c'est aussi pour les mamans, hein, bien manger. Donc vous allez nous expliquer un petit peu par rapport aux consultations que vous faites, déjà quels sont le type de mamans qui arrivent vers vous. Alors on sait qu'il y a des mamans qui ont envie de garder la ligne pendant la grossesse. Il y en a d'autres qui vont peut-être venir vous voir parce qu'elles ont des diabètes ou d'autres problèmes et que vous allez devoir suivre tout au long de la grossesse avec des régimes bien spécifiques. Déjà, Marjorie, la première question que je vous posais, pourquoi vous êtes-vous spécialisée ces dernières années dans l'accompagnement de ces femmes ?
Je suis devenue maman, comme vous avez dit, avec mon fils, et ça m'a touchée. J'ai eu une superbe grossesse, et l'alimentation, j'étais en plein dedans, même si j'avais fait les études nécessaires, mais j'avais pas de population vraiment de femmes enceintes. Et là, je me suis rendu compte de l'importance que c'était. Et finalement, on n'en parle pas plus que ça. Ça va être un médecin, une sage-femme qui va accompagner ces femmes. Mais pas que. La diététicienne peut vraiment englober ces deux autres professions. Et donc là, je me suis dit, j'ai quelque chose qui s'est passé, je veux faire ça, je veux aider des mamans à se sentir bien parce que c'est tellement un chamboulement hormonal et on entend tellement de choses aussi, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il faut faire ça. Donc vraiment une prise en charge en toute bienveillance.
Donc, quels sont le genre de femmes qui viennent voir ? Donc, on l'a dit, bien entendu. Alors, de plus en plus, maintenant, les femmes ont envie de conserver leur ligne malgré leur grossesse. Est-ce que vous avez ce genre de maman, de futures mamans qui viennent vers vous ?
Il y a, je dirais, de tout, finalement, plutôt jeunes. Et des femmes, j'ai pas ce profil qui ont peur de grossir, puisque vraiment c'est ce changement physique, ça peut arriver, je me forme à ça, mais j'en ai pas eu des mamans inquiètes du corps qui change, mais plutôt faire attention à elles pour que leur bébé reste en bonne santé avec ce qu'on entend aussi, des avortements spontanés, des préclampsies, des césariennes en urgence. L'alimentation peut aussi aider sur certains points.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple type de l'alimentation d'une femme qui n'a pas de problème de santé durant sa grossesse, une grossesse qui se passe relativement bien ? Qu'est-ce qu'a besoin une femme enceinte comme nutriments pour mener à bien sa grossesse et pour aussi que le bébé se développe bien ?
Alors, il va y avoir un apport calorique qui va être augmenté par trimestre. Et en termes de macronutriments, ce qui va être par exemple des protéines, on a aussi tout ce qui est les minéraux et les vitamines. On a la vitamine B9, les folates qu'on entend souvent et qui sont importantes pour le développement en fait neuronal du cerveau du fœtus. On a aussi l'iode qui est très importante. On a aussi le calcium, la vitamine D, le fer, bien évidemment. Il y a énormément de futures mamans qui ont l'hémoglobine un peu basse. Et souvent, il y a une supplémentation très rapide, alors qu'on peut jouer sur une alimentation riche en fer et trouver plein d'alternatives. Comme quelque chose que je dis souvent et que je veux que ça soit bien connu, c'est le thé, le café, qui ont la théine et la caféine, si elle est trop prise proche du repas, ça diminue l'absorption du fer. Alors on sait qu'il faut éviter ça pendant la grossesse. Et en plus, si c'est pris un moment trop proche, tout ce qu'on a pris, ça va diminuer cette absorption de fer. Donc c'est dommage, il y a plein d'astuces, faire un petit filet de citron dans son alimentation, avoir des fruits rouges à la fin du repas, parce que ça aide à cette assimilation. Plein de petites astuces que finalement, si on ne le sait pas ou on n'est pas suivi de A à Z, on n'a pas ces petites infos, quoi.
Ouais, non, je ne savais pas que le café diminuait l'absorption du fer.
Et ça peut marcher finalement pour après, pour avant.
Ces femmes qui... Alors, les femmes enceintes ont souvent plus faim. Mmh. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut manger plus? Est-ce qu'on a besoin de plus de calories du coup?
Alors, on a, elles en ont besoin de plus, mais sans tomber dans un excès de mauvaise graisse et de mauvais sucre. Il faut rester toujours dans une alimentation plaisir, c'est la clé, mais ça, on reste sur cette base d'alimentation, comme on a dit, équilibrée et variée. Donc, on va augmenter, par exemple, en fractionnant, en mangeant une collation à 10h, à 16h, mais qui soit raisonnée. Du pain complet, du pain aux céréales, fromage blanc, les fruits oléagineux, les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, sont des bonnes graisses riches en oméga 3, donc qui vont être intéressants pour maman et pour bébé.
D'accord. Un pain au chocolat, non?
Alors oui, de temps en temps, effectivement. Mais du coup, les mauvaises graisses risquent du coup de faire prendre du poids à maman. Et la problématique, c'est qu'on a plus de difficultés parfois à perdre ce poids après. Et surtout si c'est un deuxième, troisième enfant, ce poids-là, il risque d'être plus compliqué. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne le perd pas. Par exemple, si la maman choisit d'allaiter, on perd très vite son poids grâce à ça. Et puis les enfants avec l'énergie qu'ils nous demandent, voilà.
Donc ça, on a parlé des mamans qui n'avaient pas de problème de santé. Voilà. Donc il est intéressant d'avoir toutes les classes d'aliments et surtout les noix, les amandes pendant les collations.
Oui, c'est très intéressant. Les fruits oléagineux, en fait, c'est leur nom.
D'accord.
Ou les graines oléagineuses, comme la graine de courge.
Je pensais que c'était très calorique, en fait.
Et non, en fait, c'est très intéressant, finalement, parce qu'il y a des fibres, ça évite la constipation, il y a des oméga 3, donc ça protège le cœur, et c'est bon pour maman et pour bébé. Donc, on peut en consommer. Alors, les recommandations sont de 30 grammes, c'est à peu près une poignée, une dizaine d'amandes, ça dépend le fruit à coque qu'on va utiliser. Mais on peut très bien en mettre aussi dans les salades, comme j'ai dit, la graine de courge, les graines de chia, qui aussi évitent les constipations qui sont souvent une problématique chez la femme enceinte.
D'accord. Alors on va parler des mamans qui ont des problèmes de santé, notamment ce diabète gestationnel qui est quand même très fréquent, enfin de plus en plus fréquent chez la femme enceinte. Comment vous prenez en charge ces mamans?
Alors du coup, j'essaie déjà de les rassurer. Avant, le diabète, on faisait peur, on éliminait beaucoup de choses. Il y a vraiment une surveillance déjà avec le médecin ou la gynécologue ou sage-femme. Donc déjà, elles sont bien entourées. Donc je leur explique que il y a les mêmes recommandations pour une femme lambda. On va faire une alimentation équilibrée et variée, rester dans le plaisir, mais on va juste surveiller la glycémie, c'est-à-dire le sucre, la vitesse à laquelle en fait les index glycémiques de certains aliments vont aller plus vite. Donc on va réguler ensemble ça. On va expliquer, ce sont vraiment des éducations à ce moment-là, de se dire voilà, si vous mangez tel aliment, il va aller plus vite, donc votre glycémie, elle va être plus élevée que d'autres femmes. Donc on va éviter par exemple les sucres isolés. Donc on va éviter le pain au chocolat ou le bonbon pris en dehors du repas, plus vite assimilé, donc plus de risques de se sentir mal et d'avoir des risques. Donc on va conseiller de prendre, si on a envie, d'une petite douceur à la fin du repas. Parce que la digestion, elle sera plus lente parce qu'on a les féculents, on aura des légumes avant, on aura une viande et tout. Voilà. Et bien associer des légumes et des féculents ensemble pour diminuer cette glycémie. On va faire plein de petites astuces comme ça. Mais vraiment,
J'ai souvent entendu des mamans, non, les féculents, je ne peux plus en prendre. Non. Et le sucre, c'est interdit.
Non, bien heureusement, ça a bien changé. Même pour quelqu'un qui est diabétique, on n'arrête plus, on ne supprime plus les sucres. Alors, s'il y a vraiment un déséquilibre du diabète, on va diminuer le pourcentage qui est à peu près à 10% d'apport énergétique total de produits sucrés. Là, on va diminuer de 0 à 5%. Donc vraiment, ça va varier, ça va diminuer, mais on ne va pas être à supprimer totalement.
Voilà. D'accord. Donc en fait, une femme qui a un diabète gestationnel peut manger une mousse au chocolat à la fin de son repas.
Oui, alors on fera attention parce que du coup, elle est enceinte. On fait attention mousse au chocolat parce que ce sont des œufs qui sont crus.
Non, mais pasteurisés.
Voilà, là on est bien.
Celle du magasin, bon, qui est moins bonne que... Voilà. D'accord, ok. Oui. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a le problème. Bon, on va rapidement.
Mais bon, il y a des facteurs de risque aussi. Il ne faut pas faire peur aux femmes. Si on a eu des antécédents de diabète de type 2, des nouveau-nés de plus de 4 kilos, ce qu'on appelle des bébés macrosomiques, l'obésité, le surpoids, l'âge avancé de certaines femmes, voilà, il y a plein de petites prédispositions. Donc, voilà. Le diabète gestationnel, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas... voilà. Il y a même des professionnels qui disent ce test qu'on fait pour savoir
en laboratoire.
Voilà. Et ben ce test, il n'est pas forcément obligé d'être fait pour certaines femmes. En tout cas, ce test n'est pas obligatoire. Donc ça pourrait aussi avoir des risques de consommer trop de sucre à ce moment-là sur ce dosage-là.
D'accord, je savais pas. Je me rappelle très bien de ces tests horribles qu'on fait en laboratoire pour savoir si notre taux de sucre est très élevé. Donc, vous avez ce genre de femme. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est enceinte, même si on n'a pas de problème, même si on veut garder la ligne, on ne peut pas tout manger.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que les femmes enceintes n'ont pas le droit de manger ?
Alors, on fait attention à tout ce qui est cru. Les poissons crus, les viandes crues, on lave vraiment bien les légumes. Tout ça, ça a des risques en fait de toxoplasmose et de listeria. En fait, ça peut être contaminé. Le risque zéro n'existe pas. Et donc, on fait encore plus de précautions, de prévention avec la femme enceinte. On fait attention à tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est rillettes. On fait attention aussi à l'alcool. C'est important aussi de le dire parce que quand on cuisine, l'alcool ne s'évapore pas à 100%. Il y a des plats qui vont être des traditions, le bœuf bourguignon, il y a des blanquettes de veau qui se font aussi avec du vin blanc. Tout ça, on évite. On ne va pas essayer de tenter puisqu'il y a la barrière placentaire et ça passe. Et le fœtus vraiment est impacté par ça. Et on va avoir des problèmes physiques chez l'enfant qui ne peut pas être du tout négligeable. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en alerte les femmes. S'il y a pas, on n'a pas de recommandations, un verre, deux verres, comme une personne qui n'est pas enceinte, une femme qui n'est pas enceinte. Mais sachant qu'il y a des risques, c'est pour moi, je ne peux pas dire un verre ou une demi, c'est zéro alcool. Et si je sais qu'il y a un plat qui a été cuisiné, même longtemps, même peu d'alcool, c'est zéro. Les risques du faciès, du syndrome d'alcoolisme fœtal est très dangereux et avant, on n'en parlait pas. Comme le tabac, c'était quelque chose... Mais maintenant, on a des chiffres.
Oui, c'est important de le rappeler. Alors, concrètement, les personnes qui arrivent vers vous, donc souvent les diététiciennes font un bilan nutritionnel personnalisé, une évaluation calorique de l'alimentation actuelle, une exploration d'éventuels déséquilibres nutritionnels, l'explication des erreurs alimentaires, la détection d'éventuels troubles du comportement alimentaire, parce que quand on est enceinte, ça peut se... se compliquer. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il est très important, comme quand on va voir la sage-femme pendant la grossesse, de faire au moins une consultation chez la diététicienne, voilà, pour faire un petit peu le point. Ma dernière question, est-ce que vous pouvez nous conseiller un menu type d'une femme enceinte, par exemple, une journée où il peut avoir tout ce qu'elle a besoin dedans, pour un peu informer nos auditrices qui nous écoutent, savoir si elles sont dans le bon.
Bien sûr. Alors, au petit déjeuner, il est important d'avoir, par exemple, du pain aux céréales ou du pain demi-complet, complet. On peut vraiment varier, mais on évite le pain blanc pour ce côté du pain qui est où on enlevait beaucoup de minéraux en fait. Plus il est blanc, plus on enlève toutes ses vertus et donc la vitesse du sucre va être plus rapide par rapport à notre pain. Donc on va faire attention à ça. On peut avoir très bien une matière grasse, ça peut être du beurre parce que c'est riche en vitamines. Il y a certaines vitamines très intéressantes pour les yeux, pour le cerveau. Donc on peut aussi le remplacer par les fruits oléagineux dont on a parlé, tartinable avec juste
purée d'amande.
Voilà, d'accord. Très bien, ça c'est hyper intéressant. On peut utiliser un fruit. On évite les jus de fruits puisque du coup les fibres sont détruites et ça augmente le sucre encore une fois. Donc c'est pas très recommandé. Si c'est une orange, là actuellement c'est la saison, on va le presser. Bah du coup, si on le boit directement, riche en vitamine C, donc très intéressant. Une boisson chaude, on peut remplacer par exemple le café par de la chicorée, il n'y a pas de caféine. Le thé, on peut le remplacer par une infusion ou d'autres plantes, hein. Il y a énormément de choix. Un produit sucré, si la femme a l'habitude, sinon ce n'est pas du tout une obligation. Voilà, alors la confiture ou le miel, sirop d'érable, sirop d'agave, c'est mieux, ouais. D'accord. C'est pareil, on est sur l'index glycémique, la vitesse à laquelle le sucre va arriver dans notre sang.
D'accord.
Et donc du coup, c'est bien de varier et de ne pas utiliser tout le temps, par exemple, la confiture.
À 10h si on a faim, enfin si elles ont faim. Je suis plus enceinte.
Un fromage blanc, comme j'avais dit, avec des fruits oléagineux, ou ça peut être un fromage blanc avec des fruits coupés soi-même, ou un yaourt.
D'accord.
Un fromage qui n'est pas au lait cru.
Un morceau de fromage.
Oui, c'est tout à fait possible. Hein.
Ok. Et le midi?
Le midi, on va prendre une protéine avec une viande, un poisson ou des œufs. On va faire attention à la cuisson, que ça soit bien cuit. Mmh. On peut utiliser des féculents avec des pâtes, du riz, du sarrasin, du sorgho, de la marrante. Il y a énormément de céréales aussi qui existent qu'on peut varier avec une noisette de beurre ou varier les huiles, c'est très important. L'huile de noix, noisette, colza, huile d'olive. Puis des légumes qu'on va associer. Pareil, tout type de légumes. La cuisson à la vapeur, elle va être beaucoup plus intéressante parce qu'elle garde les nutriments. Mmh. Après, un produit laitier. Pour la richesse en calcium qui va être importante pour la femme enceinte. Et un fruit, un dessert sans aucune problématique qu'elle peut consommer avec son yaourt coupé en morceaux, manger comme ça ou en compote, voilà.
D'accord. 16h.
16h, comme le petit déjeuner, comme le 10h, la collation. Dès qu'on
a un fromage blanc avec des amandes.
Ouais. Ça, c'est
et
vraiment...
Les raisins secs.
Les raisins secs aussi. C'est juste que c'est un fruit sec, donc l'apport calorique sera un peu plus augmenté. Mais on peut très bien manger des dattes, des figues sèches, des abricots secs.
C'est intéressant au niveau nutritionnel.
Oui, c'est aussi intéressant. D'accord. Et le soir, on va être sur la même base, en fait. Il faut que le soir, ça compense, enfin, que ça ressemble, pardon, pas que ça compense, ça ressemble au midi. Parce que l'apport nutritionnel, l'équilibre alimentaire, il est sur la journée. Et après, il ne faut pas oublier ce jeûne nocturne et la puissance qu'a le fœtus de puiser dans la maman. Et donc, elle va se tourner, elle va rêver, transpirer. Et donc, elle a besoin d'énergie, en fait, qui vont être dépensées pendant la nuit. Et donc, il faut que son repas il soit aussi équilibré, varié et complet le soir. Donc du coup, pour bien se réveiller et repartir sur une bonne journée. Et éviter surtout la fatigue que peut subir une maman.
Alors, on a oublié aussi de rappeler l'importance de l'hydratation.
Exactement.
1,5 litre
Oui, voilà, 1,5 litre. Alors, on est à 2 litres, en fait, on est à 2,3 litres par jour. Et en fait, les aliments contiennent au moins 1 litre dedans. Donc du coup, c'est une globalité. Okay. Je vais boire 1,5 litre, 1 litre que j'ai dans mon alimentation. Et du coup, vu qu'on est un petit peu plus avec la maman, on va être à 2,3 litres, mais dans la globalité, puisque les fruits, les légumes sont riches en eau. Et donc, tout ça, c'est une complémentarité. Et ça aussi, je fais beaucoup, j'utilise une application qui s'appelle Nutrium avec mes patients. Et ça leur permet, en fait, de suivre un plan alimentaire et sinon de me prendre en photo ce qu'ils consomment et de cliquer aussi sur ce qu'ils boivent. Est-ce qu'ils ont bu une bouteille? Est-ce qu'ils ont bu un verre? Est-ce qu'ils ont bu une tisane? Et ainsi de suite. Ce qui va, la prochaine consultation, voir ensemble quelles ont été les difficultés, qu'est-ce qu'on peut apporter ensemble.
D'accord. Alors, pour terminer, vous allez nous parler de vos ateliers, parce que vous organisez beaucoup d'ateliers pour les mamans, pour les femmes enceintes aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, avec qui vous les animez?
Alors, j'essaye d'en faire par thématique une fois par semaine, sinon toutes les 2 semaines. Ça peut être de l'alimentation femme enceinte, femme allaitante, nourrissons de 0 à 3 ans. Et je les anime soit seule, soit accompagnée d'une doula qui a une association qui s'appelle Artemis, qui est vers Aramon, donc c'est situé vers Avignon dans le Gard. Enfin, Aramon dans le Gard et près d'Avignon pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai aussi la collaboration avec une sophrologue, naturopathe et psychologue. Qui accompagne aussi sur le postpartum, dépression postpartum. Et donc, ces ateliers sont des échanges, en fait, entre mamans, des problématiques qu'elles n'osent pas dire et des conseils d'alimentation ensemble, des dégustations aussi, des fois, sur certains produits, manger en pleine conscience, plein d'éducations nutritionnelles, parce que c'est vraiment ça qui me plaît aussi, de pouvoir échanger avec beaucoup de mamans de maman avec leurs enfants. Quoi.
Alors, ces ateliers se passent où?
Alors, à mon cabinet, au 14 rue Raphaël, dans le 8e. Donc, je les accueille là où je les accueille aussi en individuel. Et comme ça, ça permet aussi d'avoir un tarif un peu plus avantageux pour ceux qui n'ont pas peut-être la possibilité de venir en cabinet, sachant quand même que la mutuelle, il y a beaucoup de mutuelles qui remboursent et ça faut le savoir parce qu'on n'y va pas, on va pas avoir une diététicienne parce qu'on rembourse pas, on fait pas partie des sécurités sociales, ce qui est bien dommage encore. Mmh. Et donc voilà, au cabinet ou chez la doula, avec son association Artemis.
Alors, on peut aussi vous retrouver sur votre page Instagram, où vous partagez également tous vos ateliers et aussi des choses très intéressantes sur des conseils de nutrition. Marjorie, merci. Merci beaucoup de toutes ces informations très précieuses pour nos mamans. J'espère que, chères auditrices, vous allez commencer votre déjeuner, du coup, puisqu'on est le matin, avec les bons conseils de Marjorie. Merci encore.
Merci infiniment.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.
Bonjour, c'est Carla.
Bonjour, c'est Alison.
Nous vous présentons le journal d'une maman.